Bonsoir, comment allez-vous? Mais pourquoi les araignées nous font-elles si peur? Personnellement, je préfère dormir avec un tigre à dents de sabre sous mon lit qu'avec une araignée sur le mur d'en face. Si elle est immobile, je sais qu'elle me guette, qu'elle se prépare à bondir, à me pulvériser de l'acide dans les yeux, puis à m'assommer pour m'étouffer. Si elle démarre en se dressant sur ses pattes immenses, qui grandissent fur et à mesure qu'elle avance, c'est pour venir m'encercler, une stratégie de son cerveau maléfique pour que je finisse par mourir sans pouvoir crier. Quand je vois une araignée, j'appelle mon homme qui l'approche. Il peut même la toucher pour la faire sortir tranquillement, ignorant le danger en homme déraisonnable qu'il est. S'il n'est pas là, je vais dormir dans la voiture jusqu'à son retour. L'araignée est une créature du diable, alors que le tigre à dents de sabre est une peluche ronronnante et rassurante avec ses grosses papattes.
Bonjour, je m'appelle Ainoa, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi, quand les araignées meurent, elles ont les pattes recroquevillées. Merci de me répondre.
Les araignées ont les pattes recroquevillées quand elles meurent. Est-ce que c'est vrai, Christine Rollard, auteure d'Arachna chez Belin? C'est un livre que vous avez réalisé avec Vincent Tardieu.
Alors c'est une observation qu'on peut faire de temps en temps, effectivement. Certaines espèces d'araignées, quand elles meurent, donc vont complètement se contracter et les pattes vont se recroqueviller. Donc ça va s'assécher un petit peu. Par contre, il y en a d'autres, hein, donc c'est pas systématique donc cette remarque, puisqu'il y en a d'autres, quand elles vont mourir, vont avoir les pattes complètement étalées. Mais c'est souvent parce que, donc pattes recroquevillées, c'est souvent parce que l'abdomen des araignées est mou. Donc c'est juste un petit tégument qui recouvre l'abdomen en général. Et donc quand l'araignée va mourir, au fur et à mesure, ça va s'assécher, ça va se recroqueviller. Et les pattes, même si elles sont recouvertes d'un peu de chitine, donc un petit, elles sont un peu plus costauds, vont au niveau de l'articulation, c'est juste une petite membrane, hein, donc les pattes sont articulées chez les araignées. Et la petite membrane va se rétracter et hop, soit ça va effectivement provoquer donc l'ouverture de ces pattes, en fait l'étalement des pattes, soit le fait que ça se recroqueville et que ça se resserre complètement. Donc voilà une observation qui est effectivement tout à fait justifiée, mais c'est pas non plus systématique. Mais c'est juste parce que l'araignée se dessèche complètement et donc toute l'humidité, en fait tous les organes qui étaient effectivement humides à l'intérieur vont complètement s'assécher.
Elle peut pas avoir une stratégie, faire semblant d'être morte et qu'elle l'est pas?
Ça peut arriver, effectivement. Et certains ont vu des araignées un peu recroquevillées. Mais bon, faut pas quand même que les pattes soient complètement sous le corps, hein. Ouais. C'est souvent, bon, un pli recroquevillé, plutôt plié, hein. Une des réactions des araignées face à un danger, c'est souvent d'abord la fuite. Hein, donc on en voit dans les maisons, hein, qui fuient qui à notre approche, qui cavalent sous les meubles.
Ça nous fait peur, mais en fait, elles fuient.
Qu'est-ce qu'elles font? Elles fuient. Elles vont pas dans notre sens, elles vont à l'opposé. Ou l'autre, effectivement, technique donc pour échapper aux prédateurs, c'est ce qu'on appelle la thanatose, c'est-à-dire on fait les mortes. Donc elles se replient, elles attendent et elles font effectivement les mortes. Et elles peuvent faire les mortes pendant plusieurs minutes.
Ah.
Et donc quelquefois, si vous la touchez un tout petit peu, et ben là, hop, les pattes de nouveau se mettent en route et
elles
carapatent et elles filent. Voilà. Hein, donc il faut effectivement se méfier entre guillemets parce que ça fait rien du tout et en général elles fuient. Hein. Mais bon. Quand c'est vraiment replié contre le corps, hein, donc ça, elles font les mortes. Mais recroquevillées, c'est souvent effectivement
vraiment
qu'elles
mortes.
Sont mortes.
Christine Rollard est biologiste, enseignante-chercheuse. Elle est également aranéologue, puisqu'on dit comme ça, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Gérard Ligé-Belair, lui, est physicien et photographe, et oui, ça va ensemble.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 7 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on conserve le vin dans des bouteilles en verre. Merci, au revoir.
C'est vrai ça, Gérard Ligé-Belair, ce que demande Thomas?
Absolument Thomas, c'est très vrai. Alors le verre est un matériau absolument extraordinaire parce que c'est un matériau qui est totalement hermétique. Hermétique, ça veut dire que c'est une barrière parfaite à toute forme d'échange.
Pas d'air.
Voilà, pas d'air. Évidemment, le liquide ne va pas pouvoir s'échapper. Oui. Mais l'air de l'atmosphère ne va pas pouvoir pénétrer. Il y a très très peu de matériaux qui sont parfaitement hermétique. Le verre en fait partie.
Le verre est plus hermétique que le plastique?
Absolument. Le plastique est, à l'échelle moléculaire, le plastique est poreux.
Ah bon?
Oui, absolument.
Et le verre est plus hermétique qu'une brique en carton?
Absolument.
D'accord.
À l'origine, si on veut reparler de l'origine, parce qu'on fait du vin depuis l'Antiquité, on mettait le vin dans des amphores. Les amphores, c'est de la terre cuite.
Oui.
Mais la terre cuite respire. Voilà. Donc il y a des échanges avec l'atmosphère qui vont avoir lieu et le vin va s'oxyder extrêmement vite. Le verre empêche cette réaction d'oxydation qui va faire vieillir prématurément le vin.
Et aussi parce qu'elle est solide pour les vins pétillants.
Voilà, en plus c'est un matériau extrêmement solide, qui va pouvoir résister à des très fortes pressions.
Gérard Eligier Belair est physicien, vous disais-je. Il est professeur à l'université de Reims et il dirige une équipe de chercheurs qui travaille sur les bulles.
Pequeño paria el niño que de las sombras nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo es su corazón, de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele el sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la soledad te crió, mamaste de ríos grises la oscuridad que parió. Mamaste de ríos grises la oscuridad. Mamaste de ríos grises. Un arrullo para el niño, un consuelo por favor, que tiene fría su alma, ay que le duele el amor. Un consuelo para el niño, un arrullo por favor, que tiene fría su alma, ay que le duele el amor. Mamaste de ríos grises la oscuridad que parió, mamaste de ríos grises la oscuridad.
Melingo, c'était Pequeño Paria.
Les petits bateaux sur France Inter.
Hervé Lebras ou Lebras, vous le connaissez bien, au petit bateau, il est démographe.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans. Voilà ma question. Un enfant a deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc. Mettons qu'il y ait trois générations en 100 ans. Cela ferait des milliards d'êtres vivants à la préhistoire, par exemple. Hormis en leur temps, il n'y avait pas tout ce monde. Comment tout ça s'explique ?
Louise, bonsoir et bravo pour la formulation de cette question qui est bien préparée et bien claire, Hervé Lebras.
Je connais un chapitre d'un ouvrage sur la population qui s'appelle « Un milliard d'ancêtres à l'époque de Charlemagne ». Donc c'est la même idée, c'est-à-dire, ben voilà, puisque ça double à chaque génération dans le passé, on doit arriver à des chiffres astronomiques. Mais en réalité, ce qui se passe est que les mêmes personnes figurent plusieurs fois parce qu'il y a des liens de parenté. Prenez par exemple dans l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte ancienne, le mariage habituel, c'était entre un frère et une sœur. Donc, ils se mariaient et ils avaient des enfants. Donc, ces enfants avaient deux parents, mais ils n'avaient pas quatre grands-parents.
Ah ben
puisque
oui.
Le frère et la sœur avaient les mêmes parents, ils n'avaient que deux grands-parents. Et ceci se produit dans les populations autres que l'Égypte, non pas au niveau des parents directement, mais parce que c'est des gens qui se marient dans un même groupe humain. Donc, au bout de parcours, la plupart des personnes ont un très grand nombre de fois le même ancêtre. Et on fait même des calculs tout à fait amusants pour voir à partir de quand, dans une population, tout le monde aura au moins un ancêtre en commun. Ou bien à partir de quand tout le monde descendra de tout le monde. Et ces calculs, qui sont notamment faits par un scientifique chinois, Chan, montrent que ça ne prend pas tellement de temps pour la population d'un pays comme la France. On pense que environ il y a 3000 ans, on retrouvera un ancêtre commun à tous les Français actuels.
C'est assez vertigineux, hein, ces calculs et ces constatations. Et puis c'est assez étonnant aussi d'entendre Hervé Le Bras annoncer de la manière la plus naturelle du monde. Oui, dans l'antiquité égyptienne, on épousait soit son frère, soit sa sœur. Si vous voulez poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57. Vous posez votre question, vous vous armez de patience parce que vous êtes nombreux. Et nous, nous trouvons un savant ou une savante pour répondre.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 45 ans. Et ce que je voudrais savoir, si c'est possible de faire un lifting des cordes vocales pour rajeunir la voix. Merci.
Alors, nous avons proposé votre question à un médecin, Béatrice, au docteur Jean Abitbol, qui est, vous l'imaginez bien, chirurgien ORL et phoniatre, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris. Et Jean Abitbol, vous avez écrit chez Alary Édition « Le pouvoir de la voix ».
Si on veut un lifting de la voix, c'est qu'on a l'impression que la voix a changé. Mais l'impression aussi, c'est qu'elle a vieilli. Quelque part, on considère qu'on n'a plus tout à fait l'âge de sa voix. Le lifting d'un visage, c'est non pas avoir un autre visage, car à ce moment-là, on dirait transformer le visage, mais récupérer le visage que j'avais il y a 15 ans. Et quand j'entends le mot lifting de la voix, c'est récupérer la voix que j'avais bien avant. Donc avec ces possibilités de perfection, mais surtout, et c'est ça qui est fantastique, d'imperfection. On a chacun une signature vocale. Il n'est pas question d'enlever un grain de beauté sur un visage, soi-disant parce que c'est un grain de beauté, sauf s'il est risqué. Et on garde sa signature, et bien la voix, c'est pareil. Et ce qu'on appelle le lifting de la voix, effectivement, c'est une technique que j'ai développée il y a plus de 22 ans maintenant. C'est des femmes qui fument beaucoup. On a deux cordes vocales. Les cordes vocales, c'est un muscle comme le biceps qui est recouvert d'une peau qu'on appelle l'épithélium. Eh bien, cet épithélium, quand vous fumez beaucoup, il gonfle. Dedans, il y a de l'eau. Il suffit, en microchirurgie au laser, de faire une incision au microscope sous anesthésie générale, d'ouvrir, entre guillemets, cet espace entre le muscle et l'épithélium, et on va aspirer, comme une micro-aspiration, ce liquide. On retend la corde vocale sans enlever de l'épithélium, donc en gardant sa signature, et on récupère la voix qu'on avait il y a 15 ans. Mais c'est pas toujours possible. Ça dépend de la texture de l'épithélium et du muscle des cordes vocales. Mais faut-il, et ça c'est capital, faut-il qu'on garde la connexion entre le visage et la voix? Si j'ai un visage de 35 ans, après un superbe lifting, et j'ai une voix de 60, ça collera pas, il faut toucher sa voix. Mais si on a un visage superbe, à 55 ans, avec les rides merveilleuses d'une vie,
merci,
dans lequel il y a une belle sincérité, eh bien la voix doit coller avec cette sincérité. Et si je me retrouve avec une voix comme ça, avec un visage qui colle pas, donc oui, il faut qu'il y ait connexion entre la voix et le visage, entre son physique, son mental et sa voix, car la voix, c'est la signature de notre personnalité.
Elle mesure combien, docteur Jean Abitbol, les cordes vocales?
Alors, chez la femme, entre 18 et 22 mm de long, sur 4 à 6 mm de large, et chez l'homme, entre 20 et 24 mm de long, sur 5 à 6 mm de large. C'est tout. Et ça nous suffit de pouvoir, pour certains chanteurs, avoir 5 octaves, ce qui est absolument super.
Et quand vous travaillez en tant que chirurgien sur les cordes vocales, vous les attrapez par où?
Alors, quand on opère une corde vocale, notamment dans ma spécialité au laser, on endort les gens, on passe, on met un tuyau dans la bouche, on passe donc par la bouche, on arrive dans la gorge, et au microscope, parce que c'est très petit, on travaille avec un laser qui fait, tenez-vous bien, 0,8 mm de diamètre, qui nous permet d'avoir un spot, c'est comme ça que ça s'appelle dans notre jargon, laser, qui a une précision impressionnante pour pouvoir être en micromillimètre près pour enlever ce qu'il faut, pas trop mais juste assez.
Mais dites donc, il ne faut pas que le chirurgien éternue pendant qu'il opère. Merci docteur Jean Abitbol, auteur du Pouvoir de la voix chez Alary Éditions.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre, mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps.
L'année la plus chaude de tous les temps, c'était Raphaël. Hervétis, lui, est le créateur de la gastronomie moléculaire, physico-chimiste à l'INRA, membre de l'Académie d'agriculture, et il répond à Luna.
Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 8 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi le lait gonfle quand on le cuit. Merci.
Le lait gonfle quand on le cuit. Luna, que pensez-vous de cette formulation, Hervétis ?
Pour pouvoir interpréter, il faut avoir une donnée. C'est que le lait, c'est de l'eau, du gras, des petites gouttelettes de matière grasse qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on voit très bien au microscope, et puis des protéines. Et les protéines, il faut penser comme une sorte de blanc d'œuf, quoi, en quelque sorte. Et c'est vrai que le lait, alors le vrai lait, hein, pas le lait qui a été écrémé, gna gna gna, le vrai lait, lui, donc il a des protéines, et les protéines, elles viennent à la surface, et elles coagulent, et ça fait la peau du lait. Bon. Alors, donc vous avez cette peau du lait, qui fait une espèce de chapeau, quoi. Or, quand le lait est chauffé, l'eau s'évapore. Et un gramme d'eau faisant un litre de vapeur...
Oh, en volume
ça fait des petites bulles de vapeur qui montent à partir du fond de la casserole, comme dans une casserole d'eau qu'on ferait bouillir. Hein. Et donc, ces bulles, elles sont coincées. Donc, elles font monter le lait. Et pour ça, il y avait donc dans le temps des tas d'appareils. On avait des espèces de disques en verre qu'on mettait au fond. Et puis, quand il y avait de la vapeur, les disques bougeaient, ça fait ding, ding, ding. On disait, oh là là, attention, le lait va déborder, on coupe le feu. Ouais. Donc, voilà pourquoi le lait gonfle quand il cuit.
En fait, c'est la même chose que le gâteau, le soufflé qui monte. C'est de la vapeur d'eau qui fait monter le couvercle.
Oui, oui, exactement. Ouais. C'est toujours... voilà ce que je propose à nos jeunes amis. C'est chaque fois qu'ils voient de la cuisine se faire, s'il gonfle, qui se demande si ça serait pas par hasard de la vapeur d'eau.
L'anti-montelet, voilà un objet que les jeunes ne peuvent pas connaître. Si vous voulez savoir à quoi il ressemble, allez jeter un œil à l'intérieur de ce gros, beau et amusant livre édité chez Grund qui s'appelle « Dit Jérôme, c'était comment avant ?» C'est un livre écrit par Jérôme Bonaldi et Francis Elzingre. Jérôme Bonaldi, je le revois encore assis sur cette chaise sur laquelle je suis assise. C'était peut-être pas la même. Oh si, ça devait être la même vu le look de la chaise. Puisqu'il a été journaliste ici à France Inter. Et voilà, il nous raconte ces objets d'autrefois. autrefois qui n'existe plus. Ça va en faire rêver quelques-uns, je pense.
Bonsoir, c'était Anaïs, j'ai 9 ans et je voudrais savoir si le monstre de Loch Ness existe. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Louis, j'ai 11 ans et demi et je voudrais savoir si le monstre du Loch Ness existe vraiment. Au revoir.
Benoît Grison, vous avez écrit du Yeti au calmar géant et c'est édité chez Delachaux et Niesley. Vous parlez dans votre livre du monstre du Loch Ness. Pouvez-vous répondre à Anaïs et à Louis ?
Bien sûr. Bon, Anaïs et Louis, la réponse est à la fois passionnante et décevante. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Mais c'est très intéressant de savoir pourquoi les gens ont cru sincèrement qu'il existait. Parce que le Loch Ness, c'est 7 milliards de mètres cubes d'eau. Et à la surface de ce très grand lac...
Vous faites rire les scientifiques. Comment savez-vous le nombre de mètres cubes d'eau qu'il y a dans le lac ?
Ah, bah parce qu'il y a eu tout un tas de relevés et tout. Et que c'est un des lacs qui ont le plus fasciné les géographes. C'est un des plus profonds et un des plus grands d'Europe occidentale. Et 7 milliards de mètres cubes d'eau, pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'à la surface de cette énorme surface d'eau pour un lac, eh bien, il y a des mirages. Puis il y a aussi des vagues sans vent qui sont suscitées par les eaux froides de profondeur qui remontent parfois à la surface. Puis de temps en temps, quelques phoques qui rentrent dans le loch. Alors, entre ces illusions d'optique, ces mirages et puis les quelques phoques qui rentrent dans le loch, les gens ont cru vraiment qu'il y avait un monstre. Et ils y ont cru mordicus parce qu'ils voyaient quelque chose. Le problème, c'est que ce qu'ils voyaient n'était pas ce qu'ils pensaient.
Et c'était quoi ce qu'ils voyaient? Un phoque alors?
Oui, il voyait très souvent un phoque déformé par la brume et par la réfraction optique, atmosphérique et d'un coup agrandi. Le phoque paraissait démesuré. De temps en temps, il voyait une vague sans vent liée, comme je disais, aux eaux froides de profondeur qui remontaient. Et cette vague sans vent donnait l'impression d'un sillage énorme qui avançait comme ça. Donc il y a un énorme animal en dessous là, qui est en train de frôler la surface. Et au bout du compte... La croyance s'est instaurée, mais la croyance n'était pas absurde. Les gens se sont trompés, mais la plupart ne mentaient pas, même s'il y a eu des canulars, des fausses photos.
C'est autre chose, oui.
Mais la plupart étaient très sincères. Et alors ça allait de gens très éduqués, très savants, comme certains biologistes qui ont cru, jusqu'à des gardes-pêche, les moines du monastère au bord du loch, etc. Tout le monde y croyait parce que très souvent, ils l'avaient vu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu ? Bah, voilà, c'était une illusion, c'était pas un animal inconnu.
Il faut dire que l'Écosse, je ne connais pas tous les endroits du monde, mais l'Écosse est un endroit du monde où la lumière est la plus extraordinaire. On a l'impression qu'il y a un projecteur caché quelque part qui envoie plein pot une lumière qui donne des reliefs, des impressions. C'est vrai,
un climat. C'est une atmosphère très particulière. Puis voilà, c'est un lac à mirage. Mais de toute façon... Ça, c'est pas poétique, par contre. Il y aurait pas de quoi nourrir une population de gros animaux dans le loch. Il y aurait de quoi nourrir un orque. Bon, on pourrait nourrir le malheureux Willy, mais tout seul, avec tous les poissons qu'il y a dans le loch, mais pas une population de grands animaux comme les gens croyaient en voir.
Pour qu'il y ait un grand animal, il faut qu'il ait de quoi manger, mais bien
exactement,
sûr.
Exactement, oui, parce que quelques phoques égarés peuvent se nourrir, mais de toute façon, ils ne restent pas dans le loch. À demeure, une grande population de mammifères impossible.
L'information est intéressante et ce qui est intéressant aussi en entendant Benoît Grison, docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences, c'est la démarche du scientifique. C'est il n'y a pas ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est prouvé ou ça ne l'est pas, puis c'est tout. Voilà, les petits bateaux sont terminés pour ce soir. C'était une rediffusion du 23 octobre 2016. La fusion, la diffusion et la rediffusion de ce numéro sont disponibles sur le site des Petits Bateaux. Vous y trouverez également Jean-Baptiste Audibert en maillot de bain. Venez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Si vous êtes plus livre en papier que tablette de chocolat, alors sachez que les Petits Bateaux sont disponibles en livre de poche. Si vous avez retenu le numéro de notre répondeur, très bien, retenez-le encore jusqu'en septembre, car il est parti à la boule dans une colo pour répondeur. Lui, il est bien là, Denis Chessou, pour La Tulu.